Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Le nouveau roman de Philippe Besson, Le Dernier Enfant, qui paraît chez Julliard, parle à toutes les mères et de toutes les mères. Les sentiments sont organiques, charnels, et leur tumulte, transcrit de façon clinique, est d'une vérité nue. Sans doute faut-il avoir été un fils aimé pour disséquer ainsi l'amour d'une mère. Philippe Besson est mon invité.
Europe 1.
Alors bienvenue à vous, cher Philippe, dans Il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Merci beaucoup, bonjour.
Bonjour Philippe. Philippe Besson, les écrivains seraient-ils les seuls finalement à avoir de la chance dans ce monde confiné?
Eh bien, j'ai pensé moi aussi que je ne serais pas dérangé par ça. Je me suis dit au fond, c'est un tel retranchement l'écriture. On a tellement besoin de solitude, de silence pour écrire que j'ai pensé que ce confinement finalement n'allait pas changer grand-chose pour moi et même peut-être qu'il allait être fécond, qu'il allait me rendre fertile. Et en fait, ça a été tout le contraire. J'ai trouvé ça épouvantable. J'ai été comme écrasé. J'avais un sentiment de vide complet et d'impuissance absolue. Ouais. Et puis je voyais surtout ce monde désert par la fenêtre, cette fixité, cette immobilité, ce temps perdu, ce temps mort. Et ça me rendait tellement triste que ça m'a empêché d'écrire. Donc pendant les temps du confinement, j'étais incapable de prendre le stylo ou de frapper sur les touches de l'ordinateur. Ça m'a rendu vraiment totalement impuissant.
Voilà, donc j'apprends que vous n'avez pas écrit Le Dernier Enfant pendant le confinement.
Non.
Mais alors, comme on le lit d'une traite, ce roman, on imagine que vous l'avez écrit d'une traite. Ça, c'est une naïveté de lecteur de penser ça.
Non, vous avez raison. Moi, j'ai besoin d'écrire les livres comme vous allez les lire. C'est-à-dire, j'ai besoin de les écrire dans un élan, dans une énergie, dans une facilité, dans une fluidité. Et puis, j'ai besoin d'être avec mes personnages, avec mon histoire, d'être uniquement avec eux. Et là, en l'occurrence, avec Anne-Marie, cette mère. Et donc, je ne peux pas lâcher sa main ou elle ne peut pas lâcher la mienne. Donc, je suis resté dans ce temps de l'écriture pour que, justement, le lecteur ou la lectrice prenne les choses comme moi, je les ai vécues.
Alors, Le Dernier Enfant parle donc presque cliniquement du chagrin d'une mère, Anne-Marie, mais votre livre est finalement le récit d'un chagrin d'amour. Peu importe qu'il s'agisse du manque du fils, parti vivre sa vie. C'est un chagrin très charnel qu'éprouve votre héroïne, 50 ans, caissière, une vie sans histoire. C'est un chagrin physique, épidermique, un chagrin d'amour fait de souvenirs, d'odeurs de peau, de chaleur, de grains de voix, de dégaines adolescentes, de mèches rebelles au-dessus d'un bol de lait, de beauté qui s'ignore car elle le trouve beau, son fils. Ce fils qui s'en va. Les mères aiment trop leurs fils, plus que leurs filles, Philippe Besson. C'est d'éternité une question d'opposition des sexes, à votre avis ?
Alors, je ne voudrais pas faire de généralité, puis je laisse ça aux sociologues ou aux démographes ou à tous ceux qui se sont intéressés de près à la question. Moi, je sais en tout cas que j'ai été un fils très aimé, que ma mère, qui a eu deux fils, les a aimés profondément. Je ne suis pas sûr qu'elle aurait forcément voulu avoir une fille, d'ailleurs. Voilà. Parfois, on dit qu'il y a entre les mères et les filles une forme de compétition ou de l'une finit par remplacer l'autre, alors qu'il y a dans la relation entre une mère et un fils quelque chose d'inconditionnel, de charnel, un amour comme ça qui n'a pas besoin de s'exprimer pour exister vraiment. Il y a un attachement très très fort, tellurique. Moi, j'ai été très très attaché à ma mère et donc oui, je pense que pour une mère, perdre son fils, c'est une forme de dislocation. C'est comme une forme d'amputation. Elle perd quelque chose qui lui appartenait, qui était comme un membre de son propre organisme.
Mais Philippe, la sidération de votre mère devant la chambre du fils, désormais silencieuse et vide pour toujours, vous l'avez captée ou bien vous étiez trop impatient de ce qui vous attendait au dehors pour ça ?
Alors moi, je n'étais pas impatient de partir, en fait, quand j'étais adolescent. J'avais envie de rester parce que précisément, j'étais très protégé. Donc, j'avais peur du monde qui m'attendait. En plus, moi, je suis un enfant du milieu des années 80. Donc, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les téléphones portables. Le fracas du monde ne nous arrivait pas. Moi, je vivais dans une petite ville de province, au sud de la Charente, 4000 habitants. Donc, j'étais un petit provincial dans son coin et ça m'allait très bien. Et comme j'étais par ailleurs très attaché à mes parents et à ma mère en particulier, je n'avais pas du tout envie de les perdre. Donc ça fait une vraie différence avec le fils du livre qui, lui, finalement, a envie d'une forme d'émancipation et d'aller voir ailleurs s'il y est et puis de rencontrer des gens qui lui ressemblent. Parce que c'est vrai qu'il a vécu entouré d'adultes, ses parents, ses oncles, ses tantes, etc., les voisins. Bon, et lui, il a envie d'autre chose, il a envie d'un autre monde et de la grande ville.
Les la jeunesse d'aujourd'hui a plus que celle d'avant ses codes,
absolument,
n'est-ce pas?
Absolument. Moi, j'avais,
et ses langages.
Moi, j'avais absolument rien. J'étais vraiment dans une innocence et une virginité complète. Donc, j'avais pas tellement envie d'aller me frotter au monde. Lui, le fils, oui, il a envie de, voilà, d'autres choses. Et c'est sans doute ce qui effraie sa mère. C'est-à-dire qu'au fond, elle se dit, il part pour gagner quelque chose que je ne peux pas lui offrir. Il veut des gens qui lui ressemblent et plus des gens qui ressemblent à moi, sa mère. Et donc ça, c'est terrible. Moi, j'avais envie de rester. J'avais pas envie de partir.
Alors parlons de votre héroïne. Cette société n'est pas faite pour les femmes de 50 ans dont le petit dernier vient de s'envoler. Hein. Mmh. Et la question que pose justement ce roman, c'est comment redonne-t-on un sens à l'avenir quand on a le sentiment que la mission de sa vie, c'est-à-dire être la mère nourricière, est accomplie, terminée et que rien, plus jamais, ne sera aussi intense. En fait, que fait-on de tout cet amour quand on a 50 ans et que le dernier fils est parti?
C'est ça la vraie problématique de ce livre. C'est-à-dire que c'est au fond, Anne-Marie, quelqu'un qui a organisé sa vie autour de ses enfants, parce qu'elle en a eu 3 et donc c'est le petit dernier qui s'en va. Donc elle a d'abord été une mère. Elle a même cessé d'être une femme. Elle a presque cessé d'être une épouse pour être la mère nourricière. Et puis tout d'un coup, il n'y a plus d'enfants à nourrir, il n'y a plus d'enfants à élever, il n'y a plus d'enfants à faire grandir. Et donc, elle se sent inutile. Elle devrait avoir le sentiment du devoir accompli, elle a le sentiment de culpabilité parce qu'elle se dit, est-ce que j'en ai fait assez? Et puis surtout, elle a peur parce qu'elle se dit, mon fils, maintenant, qui va le protéger? Il va être en danger dans ce monde dangereux. Et moi, comment je fais pour justement qu'il ne soit pas en danger? Donc tout ça se va dans sa tête et c'est terrible pour elle. Et je pense qu'elle est aussi renvoyée à la solitude parce que vous évoquiez tout à l'heure la chambre vide. C'est-à-dire, moi, je crois que le vide, c'est quelque chose de très concret. C'est pas une idée abstraite. Vous entrez dans une maison et il y a le silence. Il n'y a plus les bruits, il n'y a plus les exclamations, il n'y a plus les rires, il n'y a plus le désordre, il n'y a plus la musique du fils. Et puis quand vous entrez dans sa chambre, il n'y a plus les posters sur les murs, il n'y a plus ses vêtements, il n'y a plus rien. Et donc là, affronter tout d'un coup ce vide, cette vacuité, c'est absolument effrayant. Et donc il faut se reconstruire, sauf qu'elle a 50 ans. Et que donc elle a oublié d'être une femme, qu'elle ne sait plus exactement comment on est une épouse et donc il va falloir qu'elle réapprenne à vivre avec celui qui est son mari. Sauf que ça correspond aussi à un moment, 50 ans, où ben, sans doute il y a la ménopause, etc. Et donc la question du désir, par exemple, va aussi être posée. Donc tout ça fait que c'est un ensemble de révolutions et de changements et de métamorphoses qui se produisent au même moment. Et je pense que pour les femmes de cet âge-là, oui, c'est un profond chambardement dont elles mettent parfois beaucoup de temps à se remettre.
Alors Philippe Besson, il y a une très belle phrase de Marguerite Duras que vous avez mise en exergue de ce livre, je la lis. « La maison de famille, c'est pour y mettre les enfants et les hommes, pour y contenir leur égarement, les distraire de cette humeur d'aventure, de fuite qui est la leur depuis les commencements des âges. Les femmes ont donc inventé les maisons pour retenir les hommes, mais les hommes, toujours, prennent le large pour éprouver leur courage. »
Je ne sais pas, c'est une phrase de Duras, il faut se méfier toujours des phrases de Duras.
C'est magnifique et sans fin.
Mais c'est magnifique et sans fin, oui, c'est ça. Non, mais c'est vrai qu'on peut dire sans risque de se tromper que peut-être les mères ont un rôle plus moteur, en tout cas c'était vrai dans la génération d'avant, dans la construction des foyers. C'est-à-dire que c'est elles qui tiennent les choses, qui fabriquent les familles. Les pères de la génération de mon père, par exemple, ils n'étaient pas très participatifs dans la famille, on va dire ça que ça. Moi, j'ai été élevé par un père taiseux, distant, qui ne m'a jamais dit qu'il m'aimait, alors qu'il est absolument certain qu'il m'aimait. Je n'ai pas de doute là-dessus, mais on ne disait pas ces choses-là. Quelqu'un qui ne participait pas aux tâches ménagères, qui ne s'occupait pas des choses matérielles, on va dire, qui pourtant sont le sel et le sens d'une vie aussi. Ce n'est pas des choses qu'il faut mépriser, qu'il faut dédaigner. C'est au contraire, ça a du sens, tout ça. C'était dévolu plutôt à ma mère. Voilà. Et donc, c'est vrai que ce sont souvent les femmes qui construisent le foyer. Et c'est un truc avec des murs. Donc, c'est des trucs qui retiennent les maris et les enfants, logiquement. Et puis tout d'un coup, ben, y a plus de murs, il n'y a que des portes qui s'ouvrent et des fenêtres qui s'ouvrent et des gens qui s'en vont.
À quel âge avez-vous quitté la maison familiale des Charentes?
À 18 ans.
Comme lui.
Bah oui, parce qu'en fait, moi, j'ai eu mon bac un peu vite. J'ai fait après une prépa HEC et au bout d'un an de prépa HEC, j'ai été admis dans une école de commerce et donc j'ai intégré cette école de commerce à 18 ans. Et c'était à Rouen, donc très très loin de ma Charente natale. Et donc mes parents sont allés m'installer dans la studette de 17 mètres carrés que je louais à Rouen pour les 3 années qui m'attendaient. Et mes parents m'ont donc amené là-bas. Et je me souviens de...
Les scènes que l'on peut lire dans ce roman, Le dernier enfant, en fait, vous les avez vécues. Vous savez très bien ce qui traversait l'esprit de vos parents au moment où ils montaient les valises et commençaient
absolument.
Mais surtout, à ranger autour de vous.
Mon père m'a raconté l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a emménagé, etc., et qu'eux, après, ont repris la voiture pour repartir en Charente, j'ai vu la voiture s'éloigner. J'étais, je me souviens, en haut du boulevard des Belges, les Rouennais sauront où c'est, et je voyais la voiture s'éloigner, et moi, j'étais étreint d'émotion, enfin, c'était terrible. Et je ne savais pas ce qui se passait dans la voiture. Et mon père, des mois après, m'a dit « Mais voilà, ta mère a pleuré pendant tout le voyage du retour. » Et donc, cette image m'est restée. Parce que d'abord, un enfant n'a pas envie de faire pleurer sa mère. Et cette image m'est restée. C'est elle qui m'a guidée au moment où j'ai commencé à écrire le livre.
Bon, les fils quittent les maisons justement pour découvrir la vie. Eh bien, c'est ce chemin de vie, le vôtre, riche de chapitres vraiment inattendus, qu'on va reprendre avec vous dans un instant. On fait une pause très courte. Et on retrouve tout de suite Philippe Besson.
Europe 1. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, avec Isabelle Morizet.
Philippe Besson, à 17 ans, en terminale scientifique, vous ne projetez absolument pas une vie d'écrivain. En revanche, à l'âge de 11 ans seulement, vous saviez que vous préfériez les garçons. Comment ce sentiment peut-il devenir une certitude à 11 ans ?
Je ne sais pas, parce que j'ai compris et j'en ai pas été catastrophé. C'est ça, je pense, qui est très différent par rapport à d'autres enfants ou garçons. C'est-à-dire que souvent, on est catastrophé, on se dit « ce n'est pas normal » ou « qu'est-ce que ça veut dire ? On est perdu, etc. » Ou on se sent coupable. Et moi, bizarrement, non seulement je ne me suis pas senti coupable de rien, d'ailleurs, il n'y avait aucune raison de se sentir coupable de quoi que ce soit, mais souvent, c'est ce qui arrive. Et surtout, peut-être, je me suis dit « ah ben, au moins, c'est une forme de transgression. » Au moins, c'est une forme de différence. Moi qui suis l'enfant bien peigné, l'enfant bien élevé, celui qui fait tout ce qu'on attend de lui, l'enfant discipliné, l'enfant idéal, là, j'ai un truc qui déconne. Et puis, parce que je devais sentir au fond de moi, et j'avais au fond raison, que sans doute, ce ne serait pas une catastrophe non plus pour mes parents. C'est-à-dire que je n'ai pas pensé que le jour où ils le découvriraient, ce serait pour eux une nouvelle terrible. Et ça a d'ailleurs été le cas, parce que quand je leur ai annoncé, ça s'est très bien passé.
Mais alors, vous aviez quel âge ?
Quand j'ai annoncé ?
Oui.
J'avais 18 ans, 19 ans.
Alors, 18 ans, mais ça veut dire que, tout de même, pendant l'enfance, puisque 11 ans, on est encore un enfant, on est à l'aube de l'adolescence, bon, la certitude de cette préférence, c'est un bien grand secret qu'on ne peut pas partager. Et puis, il faut se remettre dans le contexte quand même de l'époque à la campagne, dans les années 70. Votre père aimant, mais instituteur. Donc, vous avez grandi et rêvé autour d'un secret.
Oui, j'ai grandi dans le secret. J'ai grandi dans le silence. Je me suis tue parce que j'ai compris que même si moi, ça ne me posait pas de problème, ça allait poser des problèmes autour. Je comprenais bien que ça n'était pas communément accepté. Et vous avez raison de le dire. On était à la fin des années 70, au début des années 80, dans une petite ville de province. Et soit ça n'existait pas, c'est-à-dire que ça n'était pas dans le champ des gens, c'est-à-dire qu'ils se disaient on ne sait pas ce que c'est, et donc quand on ne connaît pas quelque chose, on se méfie. Bon. Soit c'était l'objet de moqueries, de sarcasmes, soit c'était l'objet d'insultes, d'injures, soit c'était l'objet de violences. Ça a été par exemple ce qui m'est arrivé quand j'avais 16-17 ans dans la cour du lycée, où bon, vous vous faites d'abord un peu moquer, ensuite un peu insulter, ensuite un peu taper dessus parce qu'on a compris qui vous étiez et ce que vous représentiez. Donc ça, c'est un peu difficile. Ça, je ne cache pas que ça n'a pas été le moment le plus simple. Surtout qu'en plus, vous continuez à vous enfermer dans le mutisme. C'est-à-dire à la fois, je ne mentais pas en disant « Non, je ne suis pas homosexuel », mais je ne le disais pas non plus. Donc c'était terrible de s'enfermer, de se s'enferrer dans ce silence-là. Mais en même temps, c'est sans doute aussi ce secret, ce silence, ce qui m'a permis de nourrir mon imaginaire. Parce que du coup, vous avez besoin de vous construire un monde parallèle, de vous évader autrement. Et c'est vrai que sans doute, mon imagination s'est forgée à ce moment-là.
Alors, vous dites que vous avez révélé à l'âge de 18 ans à vos parents ce secret. Généralement, les mères sont les premières à deviner les penchants de leurs enfants. Est-ce que ce fut le cas pour la vôtre ?
Oui, je confirme, la mienne, elle avait compris, oui.
Oui, elle avait compris.
Elle avait tout à fait compris, ça n'a pas été une surprise. Alors, après, et donc ça s'est bien passé. Après, il y a toujours cette idée, et je vais essayer de me faire bien comprendre quand je dis ça pour ne pas choquer, mais je peux comprendre aussi qu'une mère puisse se dire « Ah là là, la vie va être un peu plus difficile pour mon fils » parce qu'il n'est pas dans la norme, dans la majorité. Donc je peux comprendre qu'une mère, ou un père d'ailleurs, se dise « ça aurait été mieux si ça avait été autrement ». Je peux le comprendre, je l'entends. Après, on se fait à la chose et puis tout ça se passe bien. Mais je veux dire, je n'accable pas d'emblée les parents qui n'accueillent pas ça avec un grand sourire et les bras ouverts. C'est vrai que c'est pour des parents quelque chose de très déstabilisant et c'est normal que leur réaction soit parfois alors, maladroite quand elles sont hostile, odieuse, homophobe, ça c'est terrible. Ça arrive encore aujourd'hui.
Alors justement, en 2020, malgré l'existence du mariage homosexuel et puis tous les textes de loi, selon vous, il est toujours aussi difficile pour un adolescent, particulièrement en province, d'assumer la révélation de son homosexualité? Le déni et la dissimulation, par peur d'être jugé et renié, sont toujours de mise.
Alors, je pense que ça s'est quand même un peu amélioré, parce que d'abord, encore une fois, nous avons beaucoup plus accès à l'information. Nous avons, donc, ça veut dire qu'on voit, les homosexuels sont devenus visibles. Avant, ils étaient les invisibles. Donc, les gens se sont familiarisés avec cette question-là. C'est plus une question étrange, c'est plus une question déstabilisante. Donc, il y a ça. Donc, les choses ont évolué favorablement. Pour autant, je n'oublie pas qu'il y a 7 ans de ça, quand le mariage pour tous passait devant l'Assemblée nationale, vous aviez des centaines de milliers de gens qui défilaient dans la rue en expliquant « mais s'ils veulent épouser un homme, à ce moment-là, ils n'ont qu'à épouser un chien ». Ce sont les choses qu'on a entendues hein, dans la rue. Dans la rue, il y a en 2013, pas en 1913, pas en 1813, en 2013 en France. Donc, c'est ça la réalité. On a été ostracisés. Sachant que le mariage, c'est quoi? Ça n'enlevait rien à personne. Ça ajoutait un droit aux homosexuels. C'est-à-dire que donc, il y avait des gens qui descendaient dans la rue pour, non pas pour défendre un droit, mais pour interdire à d'autres de l'avoir. C'était quand même très étrange. Donc ça a été très violent à ce moment-là de se dire, il y a quand même tant de gens qui nous détestent. Mais pour autant, l'incurable optimiste que je suis dit que, oui, aujourd'hui quand même, cette question est une question où la violence est beaucoup moins en jeu.
Alors Philippe Besson, aucun romancier ne peut écrire en faisant abstraction de sa vérité intime. Donc, écrire fut pour vous, je ne sais pas si on peut dire une forme de libération, même si vos choix étaient, vos choix de vie pleinement assumés, mais est-ce qu'on peut dire que ça induit ça?
Non, parce qu'au début, je n'ai jamais eu envie d'écrire sur moi. Alors, vous avez raison, aucun romancier ne peut écrire en faisant abstraction de ce qu'il est, de ce qu'il a vécu, de ce qu'il éprouve, de ce qu'il ressent. Et donc, il y a tout ça dans mes livres. Mais mon premier geste n'a pas été de me raconter,
oui,
de
ça.
Parler de moi. Et au contraire, moi, je suis venu à l'écriture par le roman, c'est-à-dire par la fiction, par l'imaginaire, par le mensonge. Je suis venu à l'écriture pour vivre d'autres vies que la mienne, pour avoir un supplément de vie.
J'extrais donc de votre réponse le mensonge. C'est incroyable parce que, voilà, la fiction, ce n'est pas le romanesque, mais carrément, ça peut être le mensonge.
Ben, bien sûr. Ma mère, d'ailleurs, quand j'inventais des histoires, quand j'étais enfant, me disait « arrête avec tes mensonges ». Elle me disait « pas arrête avec tes histoires bon. ».
Qui donc, est le titre de l'un de vos livres.
Bien sûr. Et donc, c'est vrai qu'on a l'impression qu'à partir du moment où on invente une histoire, elle est forcément fausse. Moi, je crois qu'on peut inventer des histoires qui sont vraisemblables. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ce qui m'a guidé vers l'écriture, c'était de trouver quelque chose qui était un peu éloigné de moi et de me permettre de devenir quelqu'un d'autre. Quand on écrit des romans, c'est vraiment parce qu'on a envie de communier avec le lecteur ou la lectrice sur un plan sentimental. Voilà. Moi, je suis avant tout insensible et insentimental.
Eh bien, c'est ce grand sentimental qu'on va retrouver dans une poignée de secondes. On a rendez-vous immédiatement à nouveau, tout de suite, avec Philippe Besson.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Le nouveau roman de Philippe Besson a pour titre « Le dernier enfant », il paraît chez Julliard, et nous livre le vacillement, l'effroi et les vertiges d'une mère dont le quotidien se vide soudain de sa substance quand le dernier enfant quitte à jamais la maison. Philippe Besson, beaucoup de vos lecteurs ignorent que, au milieu des années 90, et pendant 5 ans, vous avez été le bras droit de Laurence Parisot, alors présidente de l'IFOP, l'Institut de sondage, et pas encore du MEDEF. Avec elle, vous avez sillonné l'Argentine, la Chine, les États-Unis pour acheter des entreprises. On était très très loin du monde de l'édition. Quel souvenir marquant vous gardez de cette première vie? Car ce fut bien une première vie totalement différente de celle qui est la vôtre aujourd'hui.
Oui. Et une vie que j'assume d'ailleurs, parce que souvent on n'assume pas sa première vie. On dit non, c'était pas moi, etc. Si, c'était moi. Il se trouve que j'avais fait des études études. Voilà, j'avais fait cette école de commerce et je m'étais spécialisé en droit du travail. Et donc, je suis devenu juriste en entreprise. Et puis, les hasards de la vie professionnelle m'ont conduit à devenir le secrétaire général de l'IFOP, donc le bras droit de Laurence Parisot, au moment où elle cherchait à entreprendre le développement international de l'Institut qui alors était très français. Et donc, elle m'a dit, venez avec moi dans l'aventure, on va aller acheter des instituts un peu partout dans le monde. Et donc, on a pris des avions et on s'est retrouvés effectivement à Shanghai, à Buenos Aires, à Philadelphie, puis après à Toronto, dans plein d'endroits. Et c'était assez drôle pour essayer justement de voir avec qui on pouvait faire des partenariats. Et moi,
oui, parce que acheter des instituts, ça veut dire que l'IFOP n'existait pas dans
absolument.
Ce,
il fallait créer des filiales à l'étranger.
Voilà, mais
c'est
il
ça.
Fallait recruter des gens
oui,
aptes.
C'est ça.
Donc c'était très singulier quand même. Comme
j'ai trouvé que c'était une aventure formidable parce que du coup vous essayez de savoir avec qui vous pouvez nouer des partenariats. Donc c'était une matière formidable et Laurence Parisot est une femme qui a une espèce d'énergie comme ça tout à fait débordante, c'est quelqu'un qui vous emporte.
Ouais.
Donc c'est vrai que moi j'avais envie de la suivre. J'étais plus tempéré qu'elle, on va dire. Mais c'est vrai que c'était comme une aventure.
Vous allez un petit peu vite en besogne parce que Philippe Besson, vous avez donc d'abord été le DRH, puis le secrétaire général de l'IFOP, puis vous avez dirigé, encore été je crois une boîte qui tournait autour d'Internet, dont
Club
vous étiez
Club Internet. Un fournisseur d'accès à l'époque.
Voilà. Alors, tout de même, je voudrais savoir si on pèse de façon très lucide les conséquences d'une démission quand, au cours de ces voyages incessants, on se met à écrire dans les chambres d'hôtel et puis tout à coup, on se dit que finalement, on va changer d'aiguillage, on va tourner le dos aux boîtes de prestige ultra connectées pour la direction desquelles on travaille. Mmh. Le grand saut, vous l'avez fait comment ? Vous l'avez prise comment, cette décision ?
Je n'ai pas eu le choix. Je l'ai fait parce que j'ai senti que je devais le faire, au fond. C'est-à-dire que... Encore une fois, j'adorais la vie dans laquelle j'étais. C'était une vie mouvementée, c'était une vie marrante. J'avais un contrat de travail, j'avais un très bon salaire, j'avais une sécurité, etc. Mais un jour, dans une chambre d'hôtel à Montréal, je découvre l'écriture, j'écris les premiers mots de ce qui deviendra le premier livre, En l'absence des hommes, et je me dis, là, il est en train de se passer quelque chose qui est de l'ordre de la révélation. C'est un peu bizarre quand je raconte ça, parce que voilà, quelque chose qui me tombe dessus, où je me dis, au fond, écrire, c'est ça que je veux faire, c'est être écrivain, c'est au plus près de mon identité. C'est-à-dire qu'avant, je faisais quelque chose et là, tout d'un coup, j'étais quelque chose. C'était vraiment comme une identitaire, une colonne vertébrale. Et donc, je me suis dit, il faut tout arrêter, tout abandonner pour ne se consacrer qu'à l'écriture. Je ne vous cache pas, quand j'ai annoncé ça à mon père, il était accablé. Ce que je peux comprendre, parce que j'avais fait des études et il se disait, ils sont sortis d'affaires, mes enfants. Et puis tout d'un coup, je redevenais un oiseau sur la branche. Mais je devais le faire, ça m'emportait tellement.
Ma question là va sembler anecdotique et pourtant elle ne l'est pas du tout parce que on était dans cette chambre d'hôtel à Montréal. Vous commencez à écrire la première phrase. Il s'agit la première phrase du premier texte qui deviendra votre premier roman, En l'absence des hommes. On est en 99. J'imagine qu'on se souvient toute sa vie de la première phrase de son premier roman.
Oui, j'ai 16 ans, je suis né avec le siècle. C'est la première phrase du livre et c'est la première phrase que j'ai écrite. J'ai 16 ans, je suis né avec le siècle, absolument. Et ce qui est très étrange, c'est qu'au moment où j'écris la première phrase, je sais qu'il y en aura une deuxième, puis une troisième et que c'est parti. C'est-à-dire que ce qui est très étrange, encore une fois, c'est que je sais que ça va devenir un livre. Ça aurait pu n'être jamais publié parce que je ne connaissais personne dans le monde de l'édition.
Vous ne connaissiez personne. Et ce premier manuscrit, vous allez nous dire si c'est vrai, vous l'avez envoyé à 8 éditeurs. Albin Michel s'est montré le premier intéressé, mais une chose vous a contrarié parce qu'il paraît que pour rejoindre leur écurie, Albin Michel a exigé que vous changiez de nom.
Oui, parce qu'il y avait un autre Besson dans l'écurie Albin Michel qui était Patrick Besson.
Et donc, il ne pouvait pas y avoir deux Bessons.
Voilà, il ne voulait pas deux Bessons dans l'écurie Albin Michel. Et donc, moi, ça m'a paru impossible. Je ne voulais pas renoncer à mon nom. C'était mon nom et c'était mon identité. Puis c'était le nom que m'avait donné mon père. Donc, je ne peux pas renoncer à ça. C'était impossible pour moi. Donc, j'ai dit, si vous me demandez de changer de nom, je ne viendrai pas. Et donc, je ne suis pas allé chez Albin Michel, je suis allé chez Julliard.
Philippe Besson, parfois, un livre devient un film. Comme ce fut le cas pour Son frère, votre roman que Patrice Chéreau a porté au cinéma en 2002 et qui remporta l'Ours d'argent au Festival de Berlin. Alors, ce film, en fait, fut aussi le vôtre, car vous en avez coécrit, à la demande de Chéreau, le scénario avec lui. Patrice Chéreau, on sait que c'était quelqu'un de radical, quelqu'un de fiévreux, de génial, mais d'emporté, de fougueux. Créer avec lui, ça devait quand même être très singulier.
Ah, c'était très singulier. C'est un des épisodes de ma vie les plus denses, les plus intenses. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'abord parce qu'il était effectivement génial, parce qu'il... Il avait une dimension très forte. Je me souviens, le premier contact avec lui, il m'a demandé de venir chez lui. Il habitait rue de Braque à l'époque et il m'attendait en haut d'un escalier. Moi, je montais, vous voyez, l'escalier vers le maître. C'était vraiment bon. Et il m'a fait asseoir dans son bureau. J'étais de l'autre côté donc, de la table. Et c'est vrai que j'étais comme un petit garçon. J'étais en... Enfin, c'était... J'avais pas les mots, quoi. J'étais très, très impressionné. Très impressionné. Et puis, il m'a dit, voilà, j'ai aimé votre livre, je voudrais faire un film et assez rapidement j'ai compris les raisons qui le poussaient à faire ce film parce que c'était un roman autour de deux frères dont l'un est en train de mourir et l'autre l'accompagne dans son agonie et il m'a dit j'ai envie de parler de la mort de Guibert, j'ai envie de parler de la mort de Coltès qui étaient mes amis et que j'ai vu partir et que j'ai dû accompagner.
Du sida.
Absolument et donc j'ai envie de raconter ça et je lui ai dit bah, très bien, allez-y et on a travaillé comme ça ensemble. Et c'est vrai qu'il fourmillait d'idées, il avait 15 idées à la minute, il était très rapide, très vif. Et en même temps, c'était pas quelqu'un de sain. C'est-à-dire que quand il écrivait quelque chose que je trouvais, moi, personnellement, pas terrible, il fallait aller le lui dire. Donc c'est le moment où vous êtes devant Chéreau et vous dites bah, « Cette scène-là que tu as écrite hier, je l'ai lue personnellement, je la trouve très moyenne. » En général, ça commençait rarement par « Ah bon, parlement ?» Il y avait une sorte de regard noir et de grand silence.
Oui.
Et il fallait se tenir bon et expliquer pourquoi c'était pas bon. Et après, il disait « Tu as raison, on enlève tout. » Et donc, c'est vrai que c'était très dense, très intense.
Vous êtes souvent allé sur le tournage voir les images que vous aviez en tête pendant donc, l'écriture du scénario se matérialiser.
Non, je n'ai pas voulu y aller.
Non.
Je ne voulais pas y aller parce que je me suis dit, ça va perturber le travail du cinéaste et le travail des acteurs. Et je me suis dit, il n'y a rien de pire, les gens vont se sentir épiés. Donc, c'était compliqué. En revanche, il s'est passé une chose étonnante, c'est que je suis le premier à qui il a montré le film à peine monté et talonné dans un tout petit studio. Et on était l'un à côté de l'autre devant un écran qui est quasiment de la taille d'un ordinateur. C'était vraiment pas... Bon, les conditions n'étaient pas terribles. Mais j'étais le premier à le voir avec lui. Et j'ai été, je ne vais pas vous dire, terrassé, ébloui, plein de gratitude et en même temps plein d'admiration pour l'œuvre finale. Et donc, quand le film s'est terminé, on s'est levé tous les deux. Je me souviens, on s'est regardé et puis je me suis mis à pleurer. Et on s'est tombé dans les bras l'un l'autre en pleurant. Donc ça, c'est un des moments les plus intenses là aussi que j'ai vécu avec lui. Oui.
Le temps file vite, hélas, mais si c'est possible en quelques mots, pour la télévision, en revanche, c'est toujours avec José Dayan, Philippe Besson, que vous avez travaillé. Votre collaboration avec José Dayan a commencé donc avec Mourir d'aimer, qui retraçait l'histoire tragique d'amour, tragique de Gabriel Russier pour l'un de ses élèves. Mais il y a aussi eu Rasputin, que vous avez écrit pour Gérard Depardieu, ou encore La solitude du pouvoir, qui nous a entré sous les ordres de l'Élysée avec les crises politiques à dénouer en contenant la colère du peuple. Et juste, je voudrais savoir, quand on écrit pour la caméra, quelle place réelle laisse-t-on à l'écrivain ?
Alors c'est bizarre parce qu'on écrit effectivement sous contrainte, ça c'est sûr, parce que d'abord souvent l'histoire nous est apportée par le réalisateur ou par le producteur. On sait qu'on écrit aussi sous une contrainte budgétaire. C'est, si j'ai envie de raser la ville de San Francisco dans un livre, c'est facile.
Allons-y.
Dans un film, ça coûte 3 millions de dollars, vous ne le faites pas, vous voyez. Donc faites très attention à chaque coût, à chaque prix d'une scène. Mais dans ce cadre-là, bizarrement, vous pouvez exercer une forme de liberté. Et c'est d'autant plus vrai avec José Dayan, qui laisse ses scénaristes gambader comme il le souhaite. Et donc moi, dans ce cadre contraint, j'ai exercé une grande liberté et j'ai écrit les films que je voulais écrire. Et surtout, il y a ce bonheur de savoir que ce que vous écrivez va finir dans la bouche de Fanny Ardant, de Jeanne Moreau, de Gérard Depardieu. Et quand ça vous arrive, c'est quand même juste du caviar.
On retrouve tout de suite Philippe Besson.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Philippe Besson, il vous vient d'où ce tropisme pour les États-Unis où paraît-il vous vivez près de 6 mois par an?
J'ai découvert les États-Unis en fait quand j'avais 25 ans et je suis tombé amoureux d'emblée à la fois des grands espaces et des grandes villes. J'ai aimé ce tumulte-là. J'ai commencé par Chicago, après je suis allé sur la côte Est et puis finalement, à un moment dans ma vie, j'ai eu envie de m'exiler, de passer du temps ailleurs. Et je me suis retrouvé à Los Angeles presque par hasard, parce que une semaine avant de partir, c'était encore New York qui tenait la corde. Et puis je me suis dit, allez, allons dans un endroit que je connais mal et qui est surtout très différent de tous mes repères.
Parce que la côte Est, c'est quand même j'ai presque envie de dire que c'est la version européenne, n'est-ce pas, des États-Unis.
Absolument.
Alors que la côte ouest, et elle est, avec la Californie, ça symbolise totalement le mythe, le rêve américain.
C'est le mythe, c'est le rêve américain. C'est aussi, Los Angeles, c'est une ville où il n'y a que du ciel bleu, parce que vous savez, c'est une ville horizontale. À la différence de New York est une ville effectivement
verticale.
Donc là, vous avez du ciel bleu et des palmiers, et vous allez jusqu'à la mer, jusqu'à l'océan. Et voilà, donc c'est aussi une ville de joie, il y a quelque chose d'hédoniste, je trouve, à Los Angeles, qui me plaisait profondément. C'est aussi une ville profondément culturelle, c'est la ville des films, c'est la ville des galeries, c'est la ville des artistes. Maintenant, Downtown LA est devenu un endroit où il y a plein de galeries qui fourmillent, il se passe plein de choses, etc. Et donc, ça, j'ai adoré cet endroit, et donc j'ai décidé d'y passer beaucoup de temps, oui.
Alors, je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Le 30 août 2018, dans la lignée d'ailleurs d'un Paul Claudel, écrivain qui fut nommé consul à New York, à Hambourg, puis à Rio, ou Romain Gary, qui a été consul à Los Angeles, vous avez été nommé consul de France, donc à LA, mais cette nomination a été contestée par le syndicat du ministère des Affaires étrangères et le Conseil d'État a annulé le décret qui permettait cette nomination. Ça vous a laissé... songeur, peut-être mélancolique.
Songeur
est
le mot.
Je n'ai pas dit
amer. Non, songeur est le mot. Oui, c'est-à-dire que j'avais l'impression que peut-être je pouvais servir à quelque chose là-bas, parce que j'avais une sorte de tropisme américain, comme vous le disiez, une connaissance des choses, voilà. Et puis qu'effectivement, la ville de Los Angeles est un endroit où la culture est tellement vivante, donc un écrivain dans un poste comme celui-là.
Oui, ça n'est pas un consulat politique comme par exemple Istanbul, Jérusalem ou Dubaï.
Pas du tout. Et donc c'est vrai que je me disais peut-être que je pourrais avoir une vague utilité là-bas. Et puis j'ai eu l'impression qu'une forme de conservatisme, d'entre-soi et d'endogamie en ont décidé autrement. Donc voilà, les choses ne se sont pas faites.
Ça veut dire qu'il faut être diplomate pour pouvoir être consul.
C'est plus que ça. Maintenant, c'est plus le cas, mais c'est plus que ça. Il fallait surtout être adoubé par le sérail. Je pense qu'il y avait l'idée que quand vous n'êtes pas du sérail, quand vous n'avez pas grandi et mangé dans les mêmes gamelles, on vous le fait bien sentir. Donc, on me l'a bien fait sentir. Et puis après, il y avait derrière ça, je pense, des arrière-pensées politiques. Et moi, j'ai servi de dommage collatéral ou de projectile contre une cible qui n'était pas moi, mais qui était une autre cible. Puis j'ai découvert aussi, néanmoins, à cette occasion-là, vous voyez comme je suis naïf, la puissance de violence des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, tout d'un coup, vous vous retrouvez dans ce qu'on appelle en bon français un shitstorm. Nos auditeurs traduiront, voilà.
Voilà.
Et c'est vrai que c'est assez curieux. Voilà, c'est assez curieux d'un coup de voir ça. Et en même temps, ça cesse aussi rapidement que c'est venu. C'est-à-dire parce qu'il faut passer à quelque chose d'autre. Donc l'époque est à la fois violente et sans mémoire. Donc
ce qui ne vous empêche pas de vivre à LA la
moitié
du temps.
Oui, et d'y retourner régulièrement et, donc,
voilà.
et d'y prendre de beaucoup
de
plaisir et
légère.
Faire ce que j'ai à faire. Oui, absolument.
Voilà.
Oui.
Alors, puisqu'on évoque les États-Unis, parmi les auteurs américains contemporains, Philippe Besson, que vous appréciez particulièrement, il en est un qui a pour nom Bret Easton Ellis, dont les romans sont infusé par un désenchantement qui rejoint d'ailleurs un petit peu le vôtre et qui confronte toujours ses héros à l'âge des possibles et à l'âge du renoncement. Vous l'avez rencontré, Bret Easton Ellis ?
Je l'ai rencontré. Alors, ce qui est drôle, c'est que je l'ai rencontré à deux reprises. La première, c'était très étrange, parce que j'habitais donc à LA sur Sunset Boulevard, et à côté de chez moi, il y avait une petite épicerie qui s'appelait Bristol Farms. Et un jour de Gay Pride, je suis allé faire des courses à Bristol Farms, et le type à la caisse devant moi, c'était Bret Easton Ellis qui est en train de faire ses courses.
Alors, que lui dit-on à ce moment-là ?
Et on lui dit rien. J'étais pétrifié, je n'osais pas. Je me suis dit que je vais apparaître comme un fan abruti qui dit « Monsieur, je vous aime beaucoup », donc j'ai rien osé dire. Et donc, je l'ai laissé repartir. Et puis, 4 ou 5 ans plus tard, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, là, véritablement, parce que on avait une rencontre prévue et puis ensuite j'allais l'interviewer. Et c'est une rencontre incroyablement dense parce que ce type est d'une intelligence redoutable, il est d'une capacité de transgression et de provocation folle, qu'il a une liberté totale, qu'il n'est retenu par rien.
Est-ce que vous pouvez être aussi libre et transgressif qu'il
est ? Non, pas du tout.
Non. Qu'est-ce qui vous retient de ça ?
Je ne sais pas, je suis peut-être trop bien élevé ou je ne sais pas. Lui est débarrassé de tout, il a une forme de nihilisme que je n'ai pas. C'est-à-dire que c'est vrai que Bret, c'est quand même un nihiliste. C'est quand même quelqu'un
auteur désenchanté.
Oui, qui voit le monde en noir et qui pense que tout va à volo et que tout s'écroule, etc. Moi, je suis plutôt solaire et optimiste. Donc, ça nous différencie beaucoup, mais je crois que lui, surtout, est un sale garnement, très mal élevé, qui règle des comptes aussi, pour le coup, avec son enfance, avec son adolescence, avec ses parents, ce qui n'était pas mon cas. Et donc, ça donne chez lui, oui, quelque chose de profondément virulent, de très malicieux, que j'admire. Moi, j'admire les choses dont je ne suis pas capable. C'est-à-dire qu'il écrit des livres que je suis incapable d'écrire et ça m'impressionne.
Mais vos héros, comme ceux de Bret Easton Ellis, se confrontent toujours à l'âge des possibles oui. et du renoncement. Alors, je voudrais savoir si dans la vie vraie, vous dites que vous êtes optimiste, mais vous croyez vraiment toujours à l'inattendu ?
Je l'espère en tout cas, c'est-à-dire que je le cherche. Je suis
vous
quelqu'un.
Le cherchez.
Oui, je cherche l'accident, je cherche la rencontre. C'est ça, écrire des livres. C'est-à-dire que vous êtes là, et il ne se passe rien, et puis cinq minutes après, vous avez l'idée d'un livre, et vous savez que ça va vous emporter pendant des mois, et que vous allez l'écrire, et vous vous dites, mais pourquoi c'est arrivé d'un coup, et ça vous embarque. Bon. Ou vous êtes là, seul, et puis vous croisez le regard de quelqu'un, vous entendez les mots de quelqu'un, et vous dites, tiens, je vais m'approcher de cette personne, et puis, huit ans ou neuf ans après, vous vivez toujours avec cette personne-là. Et donc, ce qui est mon cas. Et donc, c'est ça la chose, c'est que rien n'était prémédité, et c'est arrivé. Et donc, je me dis, c'est bien quand tout d'un coup, ça vous tombe sur la tête, ces incidents, ces merveilleux accidents de la vie, et quand ils sont positifs, et que ça vous emporte. Donc, moi, je suis ça. Je me mets en situation d'accueillir l'inattendu. Voilà.
On retrouve tout de suite Philippe Besson. C'est en compagnie de Philippe Besson qui fait paraître chez Julliard Le Dernier Enfant qu'on chemine cet après-midi. Cher Philippe Besson, nombre de vos livres sont construits autour du regret d'une jeunesse irrémédiablement perdue, comme si l'âge des possibles. Je retrouve souvent d'ailleurs cette phrase prononcée par vous dans les interviews, comme si l'âge des possibles s'accommodait mal finalement du statut d'adulte. Alors, on l'a évoqué brièvement tout à l'heure, mais la jeunesse est vraiment votre paradis perdu.
Oui, absolument. C'est-à-dire que j'ai été tellement heureux quand j'étais enfant et adolescent et que j'ai eu la conscience très vite que sans doute je ne vivrais pas des bonheurs aussi intenses après, parce que c'était un bonheur très innocent. C'était les vignobles à perte de vue autour de chez moi, c'était la camaraderie avec les voisins du village, c'était le fait qu'il ne pouvait rien m'arriver. C'était quelque chose que j'ai profondément aimé, aucun risque. Moi, j'étais un garçon peureux, donc c'était parfait. Et puis après, quand il a fallu rentrer dans la vraie vie, la vie active, j'ai trouvé ça tumultueux, j'ai trouvé ça...
rude.
Oui, rude, vraiment rude. J'étais pas préparé, j'étais trop tendre et donc j'ai pris des coups. Ça a été un peu difficile et il a fallu s'armer. Je suis devenu quelqu'un de plus rugueux, sans doute aussi moi-même. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué. Et puis c'était aussi lié à ce que je suis, c'est-à-dire que moi je suis homosexuel. Donc quand j'ai commencé à rentrer dans la vie sentimentale, je savais par exemple, c'est très différent aujourd'hui, mais que je ne me marierais pas et que je n'aurais pas d'enfant. Ça veut dire que ma vie sentimentale, elle était marquée par quoi ? Par le fait qu'il n'y aurait pas de durée, que je ne passerais pas de contrat avec quelqu'un, que je ne m'engagerais pas. Et puis je savais qu'il n'y aurait rien après, qu'il n'y aurait pas de descendance. Donc ça donnait une vie instable, ça donnait une vie mouvante. Alors c'était très agréable, j'ai adoré aussi marcher sur les sables mouvants. Mais c'est rien qui dure, c'est rien qui tient, c'est rien qui vous construit. Donc j'ai eu l'impression d'avoir été une espèce de chose un peu flottante, un peu bizarre pendant des années aussi.
Mais on va rester sur l'enfance parce que vous êtes né en Charente, vous avez passé votre enfance dans un tout petit village, paraît-il, de 160 habitants, La Mera, qui n'existe plus d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez passé votre adolescence à Barbezieux, près d'Angoulême, et vous dites, c'est étonnant parce qu'on vous imagine tellement urbain, n'est-ce pas, vous dites, je crois qu'on est le lieu d'où on vient.
Oui.
Toujours ?
Oui, absolument. C'était ce petit village, effectivement, qui a disparu parce qu'à la faveur des recoupements administratifs, maintenant, il s'est amalgamé avec la commune d'à côté, donc il a perdu son nom. Donc j'ai grandi dans un village qui n'existe plus. Je suis né à Barbezieux où il n'y a plus de maternité. Donc je suis né dans une ville où il n'y a plus d'enfants, où on ne fait plus d'enfants, il n'y a plus d'enfants qui viennent au monde. Donc c'est ça aussi, c'est l'idée de quelque chose qui s'est irrémédiablement perdu, égaré, qu'on ne retrouvera pas. Et j'étais le fils de l'instituteur, donc nous habitions dans le logement de fonction au-dessus de l'école. Donc pour descendre à l'école, moi il suffisait que je descende l'escalier, et puis je me retrouvais dans la salle de classe avec mon père qui préparait ses leçons. Et,
donc vous avez en fait passé votre enfance dans un univers clos.
Clos, absolument clos. Enfin, clos, et pour autant...
oui,
comme c'était la campagne,
voilà, se projetait loin.
Absolument.
Puisque il y avait des vignes à perte de vue.
Voilà, c'est
vous,
ça.
Vous savez vendanger.
Je sais vendanger. Je sais traire les vaches.
Oh non, mais ça c'est extraordinaire parce que vous conduisez quand même un peu mondain. Je pensais pas que la campagne avait laissé autant de traces.
Ah mais je sais traire les vaches. Je vous jure que si on me mettait une vache, là, je saurais la traire toujours encore. C'est un geste qui s'oublie pas. C'est comme le vélo, etc. Mais parce qu'en fait le soir, on allait à l'étable qui était juste à côté de l'école chercher le lait. Voilà, et donc tous les soirs ou tous les deux soirs, j'allais chercher les litres de lait. Et donc évidemment. Vous avez envie d'essayer, on vous dit bah tiens essaye, donc voilà. Évidemment vous vous asseyez sur le petit
tiède,
tabouret
mousseux, plein d'écume et qu'on boit
et vous essayez, et puis en fait c'est un geste assez facile et donc je pense que je n'aurais pas oublié, j'adorais ça, ce contact avec dans les tables avec les animaux.
Alors Pour se conformer aux règles de bienséance de l'époque, il paraît que votre père, qui était donc votre instituteur, vous demandait de le vouvoyer en classe et dans la cour de récréation. Est-ce que ça donne le goût de la transgression, tout cela ?
Alors, c'est pire que ça. Il ne me l'a pas demandé.
Non,
et
c'est
je,
vous.
Et je l'ai fait spontanément, mon frère aussi. C'est vous dire à quel point mon père était une figure d'autorité. C'est-à-dire, c'était le maître. C'était le maître d'école avec sa blouse, avec sa barbe. Et donc, quand vous entriez dans la classe, ça n'était plus le père. Plus du tout. C'était le maître d'école. Donc, moi, je le vouvoyais.
Donc,
je disais monsieur.
Jamais vous n'avez dit papa, voilà, devant vos camarades.
Jamais. Je lui ai toujours dit monsieur et vous, de 9h le matin jusqu'à 4h30 le soir. Et quand tous mes camarades s'en allaient, moi, je restais dans la salle de classe. Et là, je pouvais à nouveau lui dire papa. Et donc, il y avait ce. Bon. Mais avant, non. Et donc, c'est ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, quand vous avez grandi avec cette figure tutélaire, avec cette figure d'autorité,
Dans
un milieu clos, à qui je dois beaucoup, parce que c'est vrai que c'est lui aussi qui m'a amené vers les livres, qui m'a poussé vers les études et qui m'a permis de m'émanciper. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, vous avez envie de faire des bêtises, vous avez envie d'être un peu trublion, vous avez envie de faire des cracks, parce que vous vous dites quand même, c'est un milieu un peu corseté. Voilà.
Bon, quand on est le fils de l'instituteur et qu'on est dans la classe de son père, il n'y a pas d'alternative, n'est-ce pas ? On se doit d'être un très très bon élève, mais on peut jamais en fait être le premier de sa classe parce que ça semblerait louche. Ça devait être très compliqué pour votre père de vous noter. La place de premier, elle était confisquée par d'autres, c'est ça ?
Alors, de temps en temps, oui, on sentait qu'il nous notait plus difficilement que les autres, en tout cas. Et surtout, ce qui était terrible, c'est quand il y avait des remplaçants, quand mon père était malade et qu'il y avait des remplaçants ou des remplaçantes qui venaient, alors là, on prenait cher. Parce qu'il fallait justement démontrer qu'il n'y avait pas de traitement de faveur pour le fils du maître d'école. Donc là, c'était un peu difficile. Mais c'est vrai que non, je n'avais pas forcément les meilleures notes à l'école alors que j'étais un bon élève. Et c'est même plus que ça, il m'a fait redoubler, mon père. C'est-à-dire qu'en fait.
Non.
Oui, parce qu'il m'avait fait commencer l'école très en avance. Donc je suis rentré avec 2 ans d'avance.
Donc il craignait peut-être que vous n'intégriez trop tôt un lycée en ville.
Voilà, et donc quand il s'est agi d'entrer au collège, j'avais même pas 10 ans. Donc il s'est dit, on va lui faire redoubler son CM2 quand même, parce que là c'est trop tôt pour lui, il est quand même pas capable d'y aller. Donc il m'a fait redoubler. La seule fois de ma vie que j'ai redoublé, c'est mon CM2, et ce sur la demande de mon père, oui.
Bon, Philippe Besson, avant que vous ne découvriez Marguerite Duras, Hervé Guibert et Olivier Barbaron, c'est donc votre père qui vous a donné le goût de la lecture.
Oui.
Mais j'imagine, œuvre très classique,
oui.
Les Fondamentaux, tu vas lire Stendhal.
Oui. Alors, il a commencé mollo, c'est-à-dire j'ai commencé par les Clubs des Cinq, les Clans des Sept, etc. Toutes
après,
les choses
c'était
qu'on lit.
Alexandre Dumas.
Voilà, et après, je passe à Alexandre Dumas. C'est-à-dire qu'après, il a fallu lire effectivement Monte Cristo, tout ça.
Voilà.
Bon. Assez vite aussi, Victor Hugo, quand même, c'était assez drôle. Stendhal, mais c'est vrai que c'était une éducation extrêmement classique. Là, pour le coup, l'enseignant qu'il était n'était jamais loin. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand il me demandait de parler des livres, il fallait plus que j'en fasse une analyse littéraire qu'une analyse sentimentale. Et donc, c'était assez étonnant. Mais c'est vrai que c'est lui, absolument lui, qui m'a poussé vers les livres. C'est lui aussi qui, après, m'a dit « faut aller au cinéma, faut voir des films,
ah,
etc.
Oui. »
Donc, mon éducation culturelle, je la lui dois.
Bon, j'ai 1000 questions à vous poser. Alors, on s'interrompt vraiment très brièvement et on retrouve tout de suite mon invité cet après-midi, Philippe Besson. Philippe Besson, il y a un peu plus de 60 ans, Hemingway écrivit son fameux roman « Paris est une fête », dont le récit d'ailleurs démarre dans les années 20. Ce Paris mythique qui fit rêver et fantasmer jusqu'en 2018 les 50 millions de touristes qui chaque année venaient le visiter, ben ce Paris-là, il s'est éteint. Et d'ailleurs, les Parisiens sont les premiers à le savoir. La ville abîmée par des manifestations incessantes, les Black Blocs, s'est endormie dans ses blessures, et puis ça crasse. Et si on ne fait pas de vélo, on ne peut plus traverser Paris. Alors bien sûr, bon, le Covid tient Paris, j'ai envie de dire en apnée, mais quel Parisien parvenez-vous à être quand le ciel s'éclaircit ?
Alors c'est vrai que c'est un peu bizarre. Moi j'ai découvert Paris il y a un peu plus de 30 ans maintenant. Je suis arrivé de ma province en 89. J'étais émerveillé. Voilà, je trouvais que ça bougeait dans tous les sens. Et puis à la fin des années 2000, j'ai même animé une émission qui s'appelait
Paris dernière
sur Paris Première, où j'allais comme ça dans des endroits un peu interlopes,
voilà.
Un peu malins la nuit, et ça se bousculait. C'était bizarre. Les gens étaient un peu transgressifs, disruptifs. Voilà. Et puis oui, quelque chose s'est produit. Ça s'est un peu endormi. Ça s'est assoupi. On a l'impression que faut faire attention à tout, qu'il ne se passe plus grand-chose. Et puis effectivement, passé voilà, le fait que la ville est mise un peu sous cloche régulièrement. Du coup, on a tendance à vouloir rêver d'ailleurs. Je pense que c'est pas surprenant que la ville se vide un peu de ses habitants.
Elle se vide,
oui, et qu'on ait envie d'aller voir ailleurs si on y est. Et le confinement, je pense, a accéléré ça. Vous avez vu que maintenant, les Parisiens cherchent à aller revivre en province ou à la campagne,
ou
etc.
En banlieue.
Voilà. C'est bizarre, c'est un mouvement étrange. J'espère que le balancier repartira dans l'autre sens, mais je ne vois pas pour l'instant de raison que ça se produise.
Mais alors, y a-t-il un circuit qui, pour vous, dans Paris, demeure magique ?
Alors, moi, j'ai la chance d'habiter dans le cœur de Paris. Donc, j'habite entre Châtelet, Les Halles, le Marais, etc., la rue Montorgueil, un petit peu plus loin. Bon. Et donc, le confinement nous a obligés à devenir des piétons, si je puis dire, ou à redevenir des piétons. Donc, j'ai beaucoup arpenté, puis après l'île Saint-Louis, l'île de la Cité, ces choses autour de chez moi. Et c'est agréable parce que c'est un Paris, alors certes un peu muséal, mais il y a quand même encore un peu de vie, donc c'était agréable. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres villes qui sont en permanence en révolution, en évolution changeante, où ils se créent des nouvelles choses, ils s'ouvrent des nouveaux magasins, des nouveaux restaurants, des nouveaux lieux, là on n'ouvre pas grand chose, donc on a l'impression de refaire. C'est un film sans fin, c'est une histoire sans fin, voilà. Donc ça serait bien, oui, qu'on retrouve ce goût de l'inventivité.
Philippe Besson, finalement, c'est l'air de Los Angeles, de la campagne italienne, parce que je sais que vous adorez, oui, l'Italie, ou de Paris, qui pour vous est le plus propice à l'écriture.
Alors, j'ai la chance de pouvoir écrire absolument n'importe où, donc ça c'est bien. Alors c'est vrai que Paris, j'ai la chance d'avoir mon bureau, mon appartement, où j'ai fabriqué un lieu comme ça qui me ressemble, qui était comme un cocon, où je me sens très en sécurité pour écrire, absolument. Donc j'écris beaucoup là, mais c'est vrai que comme je peux écrire à peu près n'importe où. Je suis allé écrire beaucoup à Los Angeles. J'ai écrit 3 ou 4 livres là-bas. J'ai écrit aussi en Italie. D'ailleurs, Un garçon d'Italie, je l'ai écrit pour partir en Italie. C'est vrai que c'est parfois, quand vous allez dans d'autres endroits et que vous changez vos repères et que en même temps, vous vous sentez bien, parce qu'il faut se sentir bien. Il faut se sentir en harmonie, en adéquation avec le lieu, avec la géographie, avec l'environnement. Alors là, c'est des bonheurs d'écriture. Et quand vous avez en plus un beau ciel, eh bien, c'est pas grave d'écrire, même quand vous avez un beau ciel. Absolument.
Alors, ma dernière question sera très simple, cher Philippe Besson. Est-ce que lire vous rend aussi heureux qu'écrire ?
Non. J'adore lire. Je suis un gros lecteur. Je pourrais pas passer une journée sans lire, vraiment. Je lis beaucoup mes contemporains, d'ailleurs, parce que contrairement à une idée reçue, je trouve que la littérature contemporaine, la littérature française est très riche, très intéressante, très exaltante, très diverse. Il y a des personnages formidables.
Le dernier bouquin qui vous a enchanté.
Marie-Hélène Lafont, par exemple, là, qui a eu le prix Renaudot pour Histoire du fils, je trouve ça formidable. Histoire de la nuit de Laurent Mauvignier, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai lu une biographie complètement cinglée de Roy Cohn par Philippe Corbet, que j'ai trouvé formidable. Il y a plein de choses très différentes que je lis, j'aime vraiment beaucoup ça, mais c'est vrai que je me mets en situation à ce moment-là de vouloir ressentir, de vouloir éprouver un sentiment, et donc je le trouve dans le livre. Mais ça n'est pas la même chose que quand j'écris. Dans l'écriture, quand vous écrivez, il y a une exaltation, il y a une folie, il y a un débordement que vous ne ressentez pas quand vous lisez.
Bon, en tout cas, vous faites de nous, des lecteurs heureux. Le dernier enfant vient de paraître chez Julliard. Je vous souhaite le meilleur possible qui soit pour cette année 2021, plein de voyages, un imaginaire qui est éruptif, voilà. Et puis
merci,
je vous remercie
beaucoup.
Infiniment pour la générosité avec laquelle vous vous êtes livré, comme chaque
merci
fois.
Merci à vous et merci de ce rendez-vous auquel je suis très fidèle, et ça me fait très très plaisir d'être avec vous encore aujourd'hui.
Alors à bientôt.
À bientôt.
Dans un instant, on retrouve Stéphane Bern et Mathieu Noël pour Historiquement Vôtre, 2 heures désopilantes, juste après l'info.